Fini. Dans cette édition, on retourne à Rurutu. L'île pourrait devenir la première en Polynésie à prendre en charge l'assainissement des particuliers. La visite ministérielle est toujours en cours, on y reviendra. Et on terminera avec les nouveaux spectacles de la compagnie du Caméléon. Le journal de midi, c'est avec Lucie Rabréo. Bonjour Lucie.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et on commence avec ce projet innovant lancé aux Australes.
Et plus précisément à Rurutu, où nous suivions ces deux derniers jours le ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Ce genre de visite, c'est l'occasion, vous le savez, de mettre en avant tous les projets de l'île. Et le Tavana, Frédéric Rivetta, a tenu à souligner ses avancées en matière d'assainissement. À Rurutu, comme dans l'essentiel des îles de la Polynésie, y compris à Tahiti, les maisons ou les commerces ne sont pas reliés à un tout à l'égout, une station d'épuration, mais plutôt à des fosses septiques privées, très peu contrôlées par les autorités. Le code général des collectivités publiques, censé être applicable en Polynésie, oblige pourtant les communes à se saisir de cet assainissement non collectif en créant des services publics de collecte et de traitement. Les résidus polluants issus des fosses septiques, et ça n'est le cas nulle part aujourd'hui. Rurutu pourrait être donc la première à proposer une solution sur les hauteurs de Moerai. La mairie va donc construire une installation dédiée fonctionnant par filtration naturelle. Les explications de Mathieu Grelier, chargé de mission à l'Office français de la biodiversité.
C'est des fosses septiques où il y a un défaut de contrôle, un défaut de conformité et in fine on a un risque que cela se déverse dans le milieu. Donc avec ce projet, l'objectif c'est vraiment donc il y a à la fois la collecte qui sera mise en place dans le cadre du service public d'assainissement, nous collectif. Une fois que tout est collecté dans les fosses septiques, on va les faire passer dans ce qu'on appelle des lits de séchage plantés avec des roseaux. Et en fait, on va utiliser le pouvoir de phytoépuratoire de cette espèce avec un certain nombre de substrats, vous voyez, gravier fin, gravier grossier, galets, etc., pour traiter en fait ces eaux usées issues des fosses septiques.
Voilà, traiter ces eaux avec deux lits de roseaux consécutifs. L'eau qui en sort, d'après le Tavana, peut être rejetée dans le milieu ou utilisée en agriculture. Et quant aux boues produites, estimées à 15 tonnes par an pour les quelques 600 habitations de Rurutu, elles seront déposées dans une plateforme de compostage et de traitement des déchets verts, elle aussi en construction. Le projet qui doit être opérationnel fin 2027 est pour l'instant chiffré à 187 millions de francs, presque rien, sourit le Tavana Frédéric Rivetta, qui cherche à obtenir 80 millions du pays et de l'État au travers des contrats de développement et de transformation. Il en a déjà reçu une participation de 93 millions, soit la moitié du coût total, de la part de l'Office de la biodiversité, dont vous entendiez tout à l'heure le représentant. Un financement qui s'inscrit dans un fonds plus large, toujours disponible pour d'autres projets du pays. Plusieurs élus et parlementaires présents lors de la visite ont demandé des précisions sur ce fonds.
Alors c'est la solidarité interbassin, donc c'est un fonds qui est piloté par l'OFB et qui est développé sur tous les Outre-mer. Hein. Et spécifiquement pour la Polynésie française, ce fonds, on a un fonds de 1,2 milliard qui est fléché pour la Polynésie française. Il vient soit en complément du CDT, soit en financeur principal en fait, ça dépend. Donc on finance à la fois des études, des travaux, et on a des taux d'intervention. Pour les études, ça peut monter à 60%, pour les travaux 40%. Sauf dans certains cas où on va bonifier ces taux, par exemple solutions fondées sur la nature.
Voilà Mathieu Grelier de l'OFB qui précise que ce service public de l'assainissement non collectif est une première en Polynésie, mais Rurutu n'est pas la seule à travailler dans ce sens. La communauté de communes Tereheamanu dans le sud de Tahiti prépare son propre projet, là encore avec des lits de roseaux filtrants, mais avec une partie recherche qui doit permettre d'identifier la technique de traitement la plus adaptée aux Fénois, un projet de beaucoup plus grande ampleur qui cherche lui aussi des financements.
Et ça y est, Lucie, il fonctionne. 6 panneaux d'affichage électronique sur les bus ont été inaugurés ce matin.
Alors, ce n'est pas sur les bus, mais c'est pour les bus. Les usagers vont enfin pouvoir connaître leur temps d'attente jusqu'au prochain bus. C'est sur les stations d'attente. C'est un vaste programme de modernisation du réseau qui a été mis en place, d'abord avec une nouvelle application, un nouveau site Tere Tahiti, avec de nouveaux tarifs pour les tickets, et puis enfin, ces panneaux d'affichage.
C'est une première au Fénois, parce qu'on inaugure aujourd'hui 6 bornes d'information voyageurs que le pays a installé sur des arrêts stratégiques du réseau de bus de l'île de Tahiti. Ces bornes permettent d'informer les usagers en temps réel sur le temps d'attente avant l'arrivée du prochain bus et elles permettent également d'informer les usagers sur les perturbations éventuelles du réseau.
Voilà, ces bornes d'information voyageurs donnent aussi des infos sur la provenance du bus, sa direction. Il y en a 6 pour l'instant sur le territoire, aux arrêts de la gare routière de la mairie de Papeete, au marché de Papeete, au centre commercial de Pirée, à la mairie de Harwe, à celle de Faa et à l'aéroport. Et une 7e est prévue à l'arrêt de Utumauro.
Du nouveau dans le tourisme avec ce rachat à Taha.
Le pôle hôtelier de la brasserie de Tahiti est désormais le propriétaire de l'hôtel Vahine Marine Island de Taha. Cette petite structure de 9 bungalows sur un motu privé devrait bénéficier d'un rafraîchissement et continuer ses opérations quelque temps, mais son nouveau propriétaire envisage à terme un agrandissement et une vraie montée en gamme pour en faire un établissement luxueux et exclusif. Le pôle hôtelier de la brasserie continue donc à se développer sous la direction de Jean-Pierre Fourcade. Il avait fait le bilan de ses 30 années passées à la tête du groupe de la brasserie à cette antenne en expliquant qu'il restait aux affaires pour les investissements côté tourisme. Et autre actualité aussi, un autre de ses hôtels vient d'entrer dans la collection Relais et Châteaux, le Tikeho. Ça fait 4 hôtels en Polynésie qui ont ce prestigieux label.
Et l'actualité, c'est aussi la visite ministérielle qui continue. Et attention, vérification des voitures et des bagages sous les yeux du ministre hier.
Voilà, la police, la gendarmerie et les douanes étaient à la gare maritime de Papeete hier avec Manuel Valls. Séquence sécurité dans cette visite ministérielle. L'occasion pour les autorités de l'interpeller sur le problème de l'ICE en Polynésie. Vous vous en souvenez sans doute, une résolution a été adoptée à l'Assemblée au début du mois pour faire de la lutte contre l'ICE et les drogues de synthèse une priorité territoriale et aussi appelé l'État à en faire une grande cause nationale. Une résolution qui demandait aussi à renforcer les peines en allant jusqu'à la réclusion à perpétuité pour les cas les plus graves. Réponse de Valls, c'est non, pas d'augmentation des peines.
Le quantum des peines pour ce qui concerne le trafic de stupéfiants est déjà très élevé. Contrairement à ce qui est dit parfois, la justice sur ces sujets-là, pardon de l'expression, cogne et cogne dur, évidemment, la juste proportion du délit. La loi sur le narcotrafic qui a été votée il y a quelques semaines le démontre, donc que ce soit sur l'action des forces de sécurité, de douane, de la justice.
Et les dispositions de cette loi contre le narcotrafic adoptée donc fin avril s'étendent à la Polynésie française. Et d'ailleurs, le ministre rappelle que ça marche, tout comme la coopération entre les services ou la coopération internationale dans le Pacifique.
C'est une manière de montrer combien l'État est utile et agit de manière efficace ici en Polynésie française. C'est une priorité de l'État, parce que ce sont des sociétés, je parle en général, qui sont plus fragiles et donc davantage encore, si c'était nécessaire de le souligner, menacées par ces trafics de drogue. C'est aussi le cannabis, dont je veux souligner encore une fois les effets extrêmement nocifs en matière de santé sur la jeunesse. Le taux de ce cannabis est particulièrement élevé.
Le cannabis, un autre sujet sur lequel Manuel Valls n'est pas d'accord avec Moetei Broversen, le président du pays, est plutôt en faveur de sa dépénalisation. Manuel Valls, pas du tout. Par contre, c'est oui, pour améliorer la prévention et le traitement des personnes dépendantes, le ministre se dit ouvert à toutes les propositions.
Avant Tahiti, le ministre était à Rurutu, où la caserne de gendarmerie va être reconstruite.
Et oui, les bâtiments datent des années 70 et il faut les refaire. Un chantier à 320 millions de francs. À Rikitea, la nouvelle caserne doit être inaugurée d'ici quelques mois. Moi, à Rurutu, c'était donc le deuxième chantier pour la gendarmerie nationale en Polynésie, comme l'explique le colonel Grégoire Demaison.
Et qui a vocation à reconstruire intégralement la caserne de la gendarmerie de Rurutu, qui est dans un état de vétusté extrêmement avancé, et pour permettre à la fois de rénover complètement les capacités d'accueil des victimes, des capacités d'accueil de l'ensemble de la population qui souhaite se rendre à la brigade, pour offrir des locaux qui correspondent aux standards d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est un gros projet immobilier.
Et on parle de travaux sur les casernes aussi à Tiarei et à Rayatea.
Et enfin, on termine cette séquence ministérielle avec la réaction de Manuel Valls sur cette difficulté pour l'accord de Bougival.
Et oui, c'était la une d'hier sur le Caillou. L'Union calédonienne, une des composantes du FLNKS, a décidé de rejeter l'accord de Bougival. Ils estiment que les fondamentaux du combat du peuple kanak n'y apparaissent pas. Manuel Valls appelle les responsables politiques à écouter ceux qui aspirent à la paix civile et à la prospérité et à penser à leur parti plutôt qu'à leur pays plutôt qu'à leur parti.
Cet accord, tout le monde s'y est engagé, doit être présenté en l'état. Sa structure, son équilibre ne peuvent pas être remis en cause, sinon il n'y aurait pas d'accord. Il est impossible que cet accord ne soit pas mis en œuvre. Nous sauterions vraiment dans l'inconnu, alors qu'il faut reconstruire, qu'il faut rassurer les investisseurs, notamment dans le domaine du nickel. L'absence d'accord conduirait au chaos et de nouveau à la violence. Et le futur de la Nouvelle-Calédonie serait particulièrement sombre.
Et c'est aujourd'hui le dernier jour en Polynésie pour le ministre des Outre-mer. Manuel Valls repart ce soir pour l'Hexagone.
On parle maintenant de ces webinaires pour les étudiants polynésiens qui s'apprêtent à rejoindre l'Europe.
Et que leur installation se fasse en douceur grâce donc à ces webinaires, des rendez-vous en visio avec la délégation de la Polynésie française, l'assurance maladie, le CROUS et la Fédération des étudiants polynésiens. L'idée est de répondre à toutes les questions que se posent les futurs étudiants et faciliter leur installation dans l'Hexagone notamment, mais aussi ailleurs en Europe. Comment obtenir sa carte vitale, avoir les aides du CROUS, accéder au logement étudiant, des questions administratives qui peuvent parfois être assez angoissantes. Trois dates sont proposées pour ce webinaire. L'inscription est gratuite. Il y en a un dès demain. Et puis deux autres le 5 août et le 18 septembre. Vous trouverez le lien pour vous inscrire sur le site radio1.pf. Et puis la délégation de Polynésie française lance aussi un dispositif de parrainage pour renforcer les liens entre anciens et nouveaux étudiants.
On termine en culture. La compagnie du Caméléon fait sa rentrée avec trois spectacles.
Il y aura d'abord de la magie avec le Festival international et cinq artistes venus d'horizons différents. Un ancien du Cirque du Soleil, un champion du monde de magie close-up, un lauréat des championnats du monde de magie, une mentaliste et un marionnettiste. Deuxième spectacle annoncé, Machine de cirque, par un collectif québécois qui l'a joué dans plus de 25 pays. Un spectacle vertigineux et déjanté qui enflamme les scènes du monde entier depuis près de 10 ans. Une œuvre emblématique du cirque contemporain. Et enfin, troisième spectacle, ce sera du théâtre, 4211 km. L'histoire d'une famille iranienne réfugiée en France, c'est leur fille Yalda, née à Paris, qui raconte la fuite de ses parents et leur voyage de plus de 4000 km donc. Une pièce de théâtre qui a obtenu deux Molières. Le premier spectacle est prévu dès la semaine prochaine du 22 au 24 août et puis ce sera en septembre pour les suivants. Et d'ailleurs, en parlant de la compagnie du Caméléon, ils sont actuellement au Festival d'Avignon où ils présentent leur pièce Keshi au Off, une pièce que le journal Le Monde a d'ailleurs sélectionnée parmi ses préférées.
Et les billets sont disponibles sur ticketspacifique.pf dans les 4 magasins Carrefour et à l'accueil de vos radios à Faré Outé.
Et voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 16h pour le Flash.
Merci beaucoup Lucie, bon appétit.